autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous intéresser au lien entre santé et environnement. Comment et jusqu'où les dégradations de l'environnement, les pollutions de l'eau, de l'air, des sols, dues aux substances chimiques que nous y introduisons, perturbent notre santé et notre développement? Quelles sont les causes extérieures des maladies, voire des pandémies? Comment mieux comprendre ce mal du dehors? Pour reprendre le titre d'un des ouvrages de notre invité, Rémi Slama, épidémiologiste environnemental à l'INSERM, professeur invité cette année au Collège de France sur la chaire en santé publique. Alors que sort aujourd'hui même une étude internationale alarmante dans la revue scientifique The Lancet Planetary Health, qui estime que la pollution est responsable de 9 millions de morts par an dans le monde. Nous vous proposons de faire le point sur la recherche en santé environnementale, sur les pistes et les réglementations à adopter enfin pour améliorer notre santé individuelle et collective. Autour de la question des liens et de l'influence de l'environnement sur les maladies et sur la santé, bienvenue dans le grand amphithéâtre du Collège de France pour l'introduction de votre leçon inaugurale, cher Rémi Slama, par le professeur Thomas Romer, administrateur du Collège.
Nous nous réjouissons beaucoup d'accueillir Rémi Slama aujourd'hui sur la chaire Santé publique, ici au Collège de France. Les enjeux dont traite son enseignement répondent aujourd'hui à de nombreuses préoccupations de nos concitoyens concernant les contaminants environnementaux, préoccupations auxquelles il est important d'apporter des réponses scientifiques et précises. Ces domaines en pleine expansion appellent en effet à la fois une meilleure information du public dans un souci de prévention et de diminution des risques et le développement des capacités de recherche à la hauteur des enjeux. Et je suis très heureux que cette chaire créée, animée en 2018 en partenariat avec l'Agence nationale Santé publique France, puisse ainsi se pencher sur ces questions et contribuer à mieux faire comprendre à nos auditeurs, mais aussi aux médias, aux décideurs publics, les facteurs propres à ces causes, parfois moins évidents des maladies que sont nos comportements ou notre exposition aux substances chimiques et aux polluants présents dans l'environnement.
Bonjour Rémi Slama.
Bonjour Madame Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos recherches en santé environnementale et aussi les pistes que vous ouvrez cette année au Collège de France sur la chaire en santé publique. Votre leçon inaugurale, donc le 13 mars dernier, portait sur les causes et conditions extérieures des maladies et de la santé. Précision que vous êtes un des plus éminents spécialistes de ces questions. Directeur de recherche à l'INSERM, vous êtes épidémiologiste environnemental. Vous étudiez, Rémi Slama, l'influence des contaminants environnementaux, des polluants atmosphériques, des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et en particulier dans le contexte d'exposition précoce. On va y venir. Mais d'abord, sur cette notion de causes et conditions extérieures des maladies, un de vos ouvrages, paru cette année aux éditions Quae, s'intitule « Le mal du dehors ». Est-ce qu'on a cru, penser que finalement, le mal, les maladies, ne venaient que du dedans, de nous-mêmes ?
Il y a eu historiquement plusieurs visions et au Moyen-Âge, il y avait aussi la vision que c'était des punitions divines qui pouvaient tomber du ciel. Mais je dirais que dans la période récente, pour ce qui concerne les maladies chroniques, avec les progrès de la médecine expérimentale dans la lignée de Claude Bernard au 19e siècle, eh bien, on a mieux compris les mécanismes intérieurs des maladies, le rôle de la génétique réelle sur certaines pathologies, sur certaines maladies heureusement rares mais très graves comme la mucoviscidose, l'hémophilie qui sont dues à des mutations bien génétiques bien spécifiques. On a aussi développer de nombreux médicaments qui permettent, en agissant à l'intérieur de l'organisme, de guérir ces maladies. Et une des idées qui soutient et qui sous-tend mon cours est qu'il faut compléter cette vision des maladies chroniques comme des phénomènes internes et guérissables, qui est bien sûr juste, par la vision complémentaire de ces maladies chroniques comme étant aussi des phénomènes d'origine en partie extérieure et évitable. Et cette vision n'est pas forcément nouvelle, puisque Il y a plus de 2000 ans, Hippocrate conseillait aux médecins qui arrivaient dans une ville de bien considérer l'environnement dans lequel les habitants se trouvaient, la direction des vents, le climat, ce qui est bien sûr essentiel du point de vue des maladies infectieuses ou des effets de la température sur la santé.
Donc ça, c'était déjà il y a 2000 ans, vous dites, avec Hippocrate. Ceci dit, depuis la révolution industrielle, l'homme agit énormément sur l'environnement. Nous ne cessons pas de synthétiser des molécules chimiques, donc de mettre des molécules chimiques dans l'environnement. Une des premières lanceuses d'alerte, c'était Rachel Carson, hein, avec son ouvrage en 1962, « Printemps silencieux ». C'est quand même quoi ? Une prise de conscience récente que notre environnement, les polluants que nous y déversons, ont un rôle sur notre santé et peuvent nous rendre malades ?
Alors oui, il y a effectivement eu au cours des siècles récents des bouleversements très importants. D'une part avec le modification du profil des causes de décès avec un contrôle de plus en plus efficace des maladies infectieuses, avec une lutte efficace contre la famine. Et au XVIIIe siècle, c'était ce qu'on appelait l'ère de la pestilence et des famines, c'est-à-dire que les principales causes de décès étaient de nature infectieuse et liées au déficit nutritionnel. Aujourd'hui, les principales causes de décès sont les maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. Et la prise de conscience concernant le fait que leurs causes ne sont pas seulement intérieures à l'organisme. Effectivement, même s'il y a des connaissances, il y a un siècle ou deux, des chercheurs, des médecins qui identifient par exemple au 19e siècle que les ramoneurs, du fait de leur exposition à la suie, ont des cancers plus fréquents, que les travailleurs de la céruse qui sont exposés au plomb ont un risque de décès très fortement accru. Il est clair que c'est beaucoup à partir des années 60-70 la suite de la prise de conscience sur les effets des composés organochlorés de Rachel Carson que vous venez d'évoquer, la prise de conscience de la pollution comme un phénomène global, avec ces polluants organiques persistants qu'on retrouve à des milliers de kilomètres de l'endroit où on les a produits et utilisés, et puis peu de temps après, l'impact des composés sur l'épaisseur de la couche d'ozone, là, un problème environnemental, les pluies acides, qui précède aussi la prise de conscience concernant le changement climatique, qui fait que cette problématique des effets des facteurs environnementaux sur la biosphère et sur la santé humaine en particulier a pris de l'importance et est maintenant dans les pensées de chacun parmi les premières préoccupations.
Alors avant d'en venir à aujourd'hui justement, ce qui est marquant aussi dans vos cours au Collège de France hein, sur les causes et conditions extérieures de la santé et des maladies, c'est que vous commencez évidemment par un constat historique et par parler, vous avez évoqué les travailleurs de la césure qui étaient victimes du plomb, vous partez du plomb. Et vous dites même, Rémy Slama, que le plomb est le plus vieil ennemi de la santé humaine. Ça fait très longtemps que l'on sait que le plomb est néfaste pour la santé. Et pourtant, ça a duré jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et on le verra.
Tout à fait. Le plomb, d'abord, est d'origine naturelle, mais c'est l'humain qui va l'extraire. Par exemple, quand on purifie de l'or, il y a des émissions de plomb. C'est une matière qui est malléable, qui a un point de fusion très bas, donc c'est très pratique de fabriquer tout un tas d'objets du quotidien, de la vaisselle, par exemple, avec ce plomb. C'était un petit peu le plastique de la période ancienne. De plus, il y a eu des usages au plomb dans les cosmétiques, parce que ce blanc de céruse a un pouvoir couvrant, et la blancheur était considérée comme un signe de beauté ou de noblesse par le passé. Donc, il y avait cette exposition via les cosmétiques ou bien les peintures ou encore via l'alimentation, dans la mesure où faire cuire du vin ou une substance dans un récipient en plomb libérait de l'acétate de plomb, un autre dérivé du plomb que le carbonate de plomb qui correspond à la céruse et qui donnait aux aliments un goût doucereux et sucré. Et au temps des Romains, par exemple, où on n'avait pas la betterave sucrière, on n'avait pas identifié les moyens d'extraire le sucre de la betterave. À part le miel, on n'avait pas beaucoup d'alternatives pour sucrer les aliments. Donc, effectivement, ça fait très longtemps qu'on y est exposé. Et je pose effectivement la question de savoir si ce n'est pas le polluant le plus ancien et le plus ancien ennemi de notre santé, dans la mesure où les pestes sont contrôlées dans beaucoup de pays du monde et les pestes et les maladies infectieuses dont on souffre aujourd'hui n'étaient pas forcément présentes il y a longtemps, peut-être à l'exception de la grippe, mais dont le virus change chaque année, donc c'est pas vraiment le même facteur. Mm-hmm. Dans la mesure où les animaux sauvages qui tuaient les hommes préhistoriques ne sont plus vraiment un danger pour la plupart d'entre eux, et dans la mesure où un des gros autres candidats comme un de nos principaux ennemis pour la santé, qui est le tabac, n'est pas si ancien que ça, parce que la machine à rouler des cigarettes qui l'a démocratisé, malheureusement, remonte à 1880. Donc le titre de plus ancien ennemi de la santé humaine est probablement effectivement à attribuer soit au plomb, soit peut-être à l'alcool, qui est aussi une substance dangereuse qu'on consomme depuis fort longtemps. Et on y est toujours exposé à ce plomb.
On y est toujours exposé. Alors, vous parlez d'exposition. On comprend bien que les expositions sont multiples, nombreuses. On va y revenir hein, sur tous les facteurs d'exposition. Mais ce mot exposition est très important parce qu'aujourd'hui, on parle de l'exposome. C'est ce que vous étudiez aussi. C'est-à-dire quoi ? Tiens, je vous propose, avant de vous laisser répondre, d'écouter un autre professeur, le professeur Ronan Garland-Tézec du CHU et de l'Université de Rennes, dans un extrait d'une vidéo de l'Agence régionale de santé, expliquez-nous une définition précise de ce mot exposome.
Alors, l'exposome, c'est tout simplement l'ensemble des expositions auxquelles les individus sont exposés au cours de leur vie, de la période prénatale jusqu'à la fin de leur vie. On est continuellement exposé à tout un tas de substances chimiques, des agents physiques et des agents microbiologiques. Alors, tous n'ont pas forcément d'effet négatif ou positif sur notre santé, mais on est exposé à tout un tas de substances. Et l'ensemble de ces expositions constitue l'exposome.
L'exposome, Rémi Slama, depuis le ventre maternel, hein, avant même de naître, jusqu'à la fin de notre vie, on peut aujourd'hui quoi ? Calculer, en tout cas prendre en compte tout ce à quoi on est exposé et qui nous façonne souvent pour le pire, parfois peut-être aussi pour le meilleur.
Pour le meilleur et pour le pire. Hein. Ronan Garland-Tézec nous parle bien aussi des agents infectieux. Le fait est que notre espèce a été en contact avec nombreux virus et bactéries et on a intégré les gènes de certains de ces virus et bactéries dont certains ont une fonction très utile. Bien sûr, il y a aussi des dangers dans cet exposome, mais j'ajouterais d'ailleurs aux facteurs physiques, chimiques et infectieux évoqués, les facteurs psychosociaux, tous les facteurs de stress liés aux interactions avec les autres êtres humains et peut-être aussi les facteurs comportementaux pour bien prendre en compte aussi l'alimentation, le tabac, la consommation d'alcool. Et effectivement, on y est exposé, ça commence d'une certaine façon dès la conception parce que ce placenta dans lequel croît le fœtus à partir d'un certain stade de la grossesse n'est pas du tout une barrière étanche. On le sait parce que certains virus, suite de la toxoplasmose, peuvent traverser. On l'a appris à la suite de drames liés à l'usage de médicaments, comme le distilbène ou la thalidomide, le distilbène, qui est une substance qui n'est pas persistante dans l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme de la femme enceinte à qui on le prescrit, en croyant que ça pouvait diminuer le risque de fausse couche, ce qui était tout à fait erroné, l'élimine au bout de quelques jours. Par contre, l'organisme du fœtus exposé va garder la mémoire de cette exposition par des mécanismes complexes, peut-être épigénétiques, par des mécanismes de perturbation endocrinienne en interagissant avec ce système hormonal qui est crucial et faire que, dans certains cas, 15-20 ans après, les jeunes femmes exposées dans la vie intra-utérine vont développer, dans ce cas-là, un cancer gynécologique ou avoir de graves troubles de fertilité. Et peut-être que leurs fils, c'est-à-dire les petits-enfants de ces femmes exposées, ont aussi des problèmes de santé liés à cette exposition. Donc voilà, exemples de médicaments.
C'est ça, ce sont ces médicaments-là, en l'occurrence, ces études-là qui ont permis quoi ? De comprendre à quel point aussi le fœtus dans le ventre maternel était quoi ? Vulnérable aussi, on parle de perturbateurs endocriniens, pardon, vulnérable à toutes ces substances chimiques, encore plus vulnérable de manière précoce.
Oui, bah, on est à ce stade où l'ensemble des organes se développent dans le premier trimestre de la grossesse chez l'humain. Et il est clair qu'il y a une sensibilité qui est tout à fait différente de celle qu'on a chez l'adulte quand les organes sont là, où les contaminants peuvent aussi avoir un effet sur la santé, mais pour lequel il est trop tard pour induire des anomalies développementales qui peuvent survenir dans le cadre de ces expositions précoces. Anomalies développementales qui peuvent concerner certains organes, qui peuvent aussi concerner le développement de notre système nerveux et donc peut-être accroître le risque de troubles comportementaux, d'altération de la cognition. Et là, on peut revenir à l'exemple du plomb, qui est un neurotoxique particulièrement puissant et qui a pour effet de faire baisser notamment le quotient intellectuel, d'augmenter le risque de retard mentaux. Le saturnisme désigne effectivement l'exposition au plomb. Et on a des exemples de nombreuses substances qui vont avoir des effets sur différents systèmes de l'organisme, que ce soit donc le système nerveux, le système cardiovasculaire, respiratoire et l'ensemble des organes.
Les connaissances là-dessus ne cessent d'évoluer. Les outils pour évaluer la dangerosité de ces substances, ou pas la dangerosité, mais leurs effets finalement sur le développement du vivant et le nôtre en particulier.
Oui, c'est un champ de recherche extrêmement actif et les équipes qui travaillent sur ces questions internationalement sont un petit peu à la course derrière les nouvelles substances qui sont commercialisées régulièrement. On ne sait pas exactement, mais il y a probablement de l'ordre de 100 000 substances d'origine humaine qui sont commercialisées dans un continent comme l'Europe. Et à mesure qu'il y a la nouvelle, heureusement, elles ne sont pas toutes dangereuses, mais des tests sont faits pour essayer d'identifier des effets avec deux grandes approches qui sont celles de la toxicologie, qui va tester les substances sur des modèles animaux et qui vont permettre d'avoir des réponses assez rapides, notamment sur ces effets à la suite d'expositions précoces. Mmh. Qui surviendra à long terme, parce que en quelques mois, on peut étudier des effets sur la vie entière, voire sur plusieurs générations. Des tests in vitro qu'on fait de plus en plus pour essayer de limiter le recours à cette expérimentation animale, et des cohortes et des études de biosurveillance chez l'humain qui nous permettent d'identifier aussi les substances émergentes, les niveaux d'exposition des populations dans leur milieu de vie naturel, et puis confirmer, dans certains cas, les effets identifiés par les études animales. Donc il y a toutes ces disciplines qui interagissent pour former le corpus des connaissances de la recherche en santé environnementale.
En santé environnementale. Alors on continue de se saisir de toutes ces questions qui fâchent et qui peuvent nous alerter. Je propose d'écouter celle de mon confrère du magazine La Recherche, Philippe Pajot.
Sur la santé environnementale, on parle depuis un certain nombre d'années de l'effet cocktail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recherches un peu plus précises sur la manière dont l'effet cocktail, c'est-à-dire que les effets combinés des différents perturbateurs, fonctionnent ?
Qu'en est-il de cet effet cocktail, ou plutôt de ces effets cocktail, Rémi Slama ?
Alors, premier élément, c'est effectivement de prendre conscience que la notion de cocktail est réelle, dans le sens où les études de biosurveillance telles que celles réalisées par exemple par Santé publique France à partir de prélèvements d'urine, de sang dans des échantillons représentatifs de la population qui vit en France confirment qu'on a des dizaines et probablement des centaines de substances dans notre organisme. On n'a simplement pas les moyens financiers pour les doser toutes très précisément. Aux différents âges de la vie. Le bisphénol A, Santé publique France le rappelle, 100% des enfants ont des niveaux détectables entre 6 et 17 ans. La majorité des femmes enceintes aussi. Il en va de même pour les métaux et de nombreuses autres substances. Donc il y a une exposition cumulée à de nombreuses substances tout au long de notre vie. Et la question de l'effet du mélange est cruciale. Pendant longtemps, la réglementation a supposé qu'on pouvait gérer ce mélange en fixant une valeur limite pour chacune des substances, valeur limite qu'on définissait dans des expériences plutôt de toxicologie où les animaux étaient exposés à une substance à la fois. Mmh. Et ce qui est très pratique, on le voit bien, mais qui est un petit peu simpliste parce que ça suppose que le fait qu'on soit exposé à 100 autres substances ne va pas avoir d'impact quelconque sur l'effet de la 101e substance qui est présente. Or, ce qui est de plus en plus clair grâce aux travaux de la toxicologie, c'est qu'il y a un phénomène de dose addition, c'est-à-dire que les substances auxquelles on est exposé
s'additionnent
du point de vue de leur concentration. Mm-hmm. Si je suis exposé à 100 substances à une dose de 1 qui serait considérée comme très faible, eh bien je vais pas dire il y a pas de problème, je suis exposé pour chaque substance à une dose faible, circuler il y a rien à voir. La réalité c'est que 100 expositions à des substances à une dose de 1, si ces substances ont la même cible, le même organe ciblé dans l'organisme, c'est un petit peu comme si j'étais exposé à une dose de 100. Pour une des substances, en tout cas quand on pondère par la
donc ça,
la toxicité.
C'est vraiment un effet cocktail d'addition
fait. D'addition des concentrations, de cumulation de la présence de ces différentes substances. Et puis, on se rend compte aussi, et c'est heureusement un petit peu moins fréquent, mais qu'il y a aussi des phénomènes de synergie, c'est-à-dire que l'effet d'une substance donnée va être vraiment profondément modifié par la présence d'autres substances. Si celles-ci, par exemple, réussissent à potentialiser cette substance en la métabolisant, en la transformant, en la rendant plus bio, plus disponible, plus rapidement accessible vers les organes. C'est quelque chose qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Quand on nous prescrit un médicament, on va souvent nous conseiller de pas consommer, par exemple, de jus de pamplemousse.
Oui, on ne dit pas de jus de pamplemousse avec certains médicaments.
Tout à fait, parce que le jus de pamplemousse potentialise l'effet de nombreux médicaments. C'est-à-dire que là où je prends une pilule, si j'ai consommé du jus de pamplemousse un petit peu avant, c'est un petit peu comme si j'avais pris 10 comprimés, ce qui va bien sûr avoir un effet tout à fait différent.
Donc il y a au fond un double effet. Il y a un effet cocktail de fait, plus on est rempli, je ne sais pas comment il faut le dire, de différentes substances chimiques, plus c'est un risque, il n'y a pas de seuil séparé. Et il y a aussi ce deuxième effet cocktail, parfois, de potentialisation de certaines molécules par rapport à d'autres. D'où l'intérêt de faire des recherches très pointues en toxicologie pour ne pas croire qu'on est tiré d'affaire quand on ne l'est pas, en gros. Vous êtes peut-être un lanceur d'alerte, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez eu envie, comme choix musical, de nous faire écouter quelque chose qui déménage. Ça s'intitule Toxicity sur RFI, et ce sont les hard rockers System of a Down qui le chantent. Disons Disorder et Toxicity sur RFI. Merci pour ce choix musical enlevé. Professeur Rémis Lama, deux circonstances autour de la question de l'influence de l'environnement et des différents polluants sur notre santé. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste environnemental, directeur de recherche à l'INSERM, professeur invité cette année au Collège de France sur la chaire en santé publique. Et je le disais en introduction, la revue scientifique The Lancet Planetary Health vient de mettre en ligne une étude internationale selon laquelle les polluants de l'air, de l'eau et des sols sont responsables de 9 millions de morts par an dans le monde, notamment dans les pays en développement. C'est-à-dire au fond, et on le retrouve dans ces questions de santé environnementale, que là encore, il y a aussi de terribles inégalités en santé environnementale, que la santé environnementale reproduit en fait.
Tout à fait. On sait que il y a d'importantes inégalités sociales dans la santé, que l'espérance de vie varie très fortement en fonction de la position sociale des individus. Et même dans les pays du Nord et des pays très riches comme le nôtre, ces inégalités sociales de santé et d'espérance de vie ont tendance plutôt à s'accroître qu'à diminuer. Après, on ne comprend pas tout ce qui est sous-jacent à ces inégalités, mais il y a des éléments clairs et il est évident qu'il y a de fortes disparités d'exposition entre les pays et au sein de chaque pays, entre les catégories sociales. C'est très variable, mais si on reprend l'exemple du plomb, eh bien, ce plomb au XXe siècle était arrivé jusqu'à nos organismes, notamment du fait de sa présence dans la peinture et dans l'essence. Les premiers pays à avoir interdit dans l'essence, c'est les États-Unis, qui sont ceux qui ont inventé cette idée d'ajouter du plomb dans l'essence. Les pays les moins riches, les pays du Sud, sont les derniers à l'avoir interdit. On s'est débarrassé enfin de cette source d'exposition vers 2021. Donc, ça fait un siècle d'exposition au plomb via l'essence, et ce sont les pays les moins riches, certains pays d'Afrique, qui sont les derniers à s'en être débarrassés.
On retrouve ces inégalités partout, on retrouve aussi certaines classes, par exemple les agriculteurs, qui peuvent être beaucoup plus soumis et exposés aux pesticides. À ce sujet, je vous propose d'écouter une de vos collègues, l'endocrinologue Barbara Demnex. Elle est spécialiste de la thyroïde, directrice de recherche au CNRS. C'est une des premières à avoir alerté sur les perturbateurs endocriniens, qu'elle a réussi à mesurer très finement. Depuis, elle ne cesse vraiment d'alerter sur cette question des cocktails toxiques. C'était d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages, « Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau ». Nous l'avions reçu à ce moment-là, en 2018. Écoutez Barbara Demnex et vous réagirez ensuite.
Les pesticides, il y a l'EFSA, le European Food Safety Authority, qui a testé ou regardé de près les dossiers de 287 pesticides et on a vu que 101 avaient un effet sur la thyroïde et 97 autres affectaient le développement du système nerveux. Et ça, c'est des pesticides qui sont sur le marché et qui sont arrivés là où ils sont parce que les gens qui font la réglementation ont décidé que ce n'était pas un très grand risque. Il y a toujours l'argument qu'il faut utiliser des pesticides, sinon on ne va pas nourrir tout
monde. Toute la planète,
oui. Ouais. Oui, mais on a pu démontrer par les études publiées par l'INRA qu'on peut réduire de 50% l'utilisation des pesticides. Et il y en a énormément d'exemples. Il y en a au Vietnam, il y en a en Afrique, il y en a plein d'exemples où on a réduit, parce que non seulement si on réduit l'utilisation des pesticides, non seulement on va protéger la santé humaine, mais on va protéger la biodiversité et les insectes qui vont manger ceux qui sont nuisibles.
Donc ce que vous dites au fond, Barbara Demnex, c'est que même si ça peut nous effrayer, il ne faut surtout pas qu'on fasse les autruches. En fait, c'est vraiment
absolument
ça.
Absolument pas. Interdiction de faire l'autruche. Reconnaître le problème, légiférer et en attendant, agir de manière individuelle et en association.
Rémis Lama, vous ne faites pas l'autruche, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes d'accord avec Barbara Demnex ?
Oui, la famille des pesticides, ce sont des substances qui sont développées pour être actives sur le vivant. pas sur l'humain, mais il y a une forte conservation entre les grands systèmes de notre organisme, notamment notre système endocrinien, mais aussi dans une certaine mesure notre système nerveux, ce qui fait que une substance développée pour être active plutôt sur les insectes va pouvoir, dans certains cas,
avoir des effets
aussi chez l'humain. Et historiquement, la catégorie des pesticides est une famille où on a utilisé beaucoup de substances qui se sont révélées très clairement être des poisons. Historiquement, on utilisait de l'arsenic, on a utilisé du plomb. La première famille synthétisée à large échelle dans les années 30 pour remplacer ces substances très dangereuses, c'est les organochlorés qui ont eu un impact majeur sur la faune. Et le DDT a aussi probablement un impact sur la santé humaine et augmente le risque de cancer du sein, au moins dans le cas d'exposition précoce. Les organophosphorés qui ont été utilisés plus tard sont de la famille du gaz sarin et de substances utilisées et avec des effets neurotoxiques importants. On retrouve de nombreuses substances dangereuses sur ces pesticides. Comme dit Barbara Domenech, il faut réagir. Et il faut dire que en Europe, on est très clairement dans une des zones du monde où la réglementation est la plus claire et la plus forte, puisqu'elle dit que les pesticides mis sur le marché, en tout cas depuis ces lois de 2009 et 2012, ne doivent pas contenir ni de cancérigènes, ni de mutagènes, ni de substances reprotoxiques, ni de perturbateurs endocriniens. Alors, c'est pas facile à appliquer parce qu'il faut avoir les moyens d'identifier toutes ces substances dangereuses. Mais en tout cas, sur le papier, on est dans un cadre assez clair et protecteur pour ce qui est des pesticides.
Donc, au niveau de la réglementation, en Europe, on est plutôt bon. Enfin, en tout cas, on commence à faire ce qu'il faut faire et on se sert des recherches de chercheurs comme vous. On parle aussi beaucoup de One Health. Enfin, c'est quand même quelque chose dont on a l'impression une seule santé, une santé globale, quelque chose qui est autour de nous. En même temps, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire quelque chose alors qu'on en a conscience, qu'on commence à avoir les outils pour le mesurer. Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de classes différentes de perturbateurs possibles, entre les perturbateurs endocriniens, ceux qui sont cancérigènes, là on a parlé des pesticides. Enfin, est-ce que c'est parce que c'est trop énorme? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas s'y attaquer? Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, moi je voudrais dire qu'on ne peut pas sous-entendre qu'on ne fait rien. Il y a beaucoup de substances qui ont été interdites. On a interdit les organochlorés, on a réglementé les métaux, on a interdit le bisphénol A dans les contenants alimentaires quelques années après avoir identifié ses effets, en tout cas en France. Donc, il y a des actions assez fortes qui sont prises. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais on est face à, comme je l'évoquais, des dizaines de substances problématiques, voire des centaines, avec une certaine difficulté pour peut-être hiérarchiser ces effets, alors que pour les décideurs qui ont des moyens limités, ça pourrait être pratique de réussir à se faire une idée précise. Et là, à chaque nouvelle étude qui apparaît, ils peuvent être tentés d'oublier les autres substances dont on parlait précédemment pour s'attaquer à une nouvelle substance. Et je crois que cette approche et cette manière de penser substance par substance est pas simple pour les décideurs, pour la société qui ne peut pas apprendre le nom de toutes ces nouvelles molécules. Et là, une piste et une approche productive consiste à réfléchir en classe de danger, c'est-à-dire réfléchir aux grands problèmes que la société voudrait voir traités, c'est les problèmes de santé tels que l'induction de cancer, l'induction de mutations dans le génome, de perturbations endocriniennes, de neurotoxicité. Et puis de laisser les agences sanitaires, en leur donnant des moyens considérables, c'est le travail de l'ANSES en France et de ses homologues en Europe, pour identifier toutes les substances qui rentrent dans ces grandes catégories de danger, des carcinogènes, des reprotoxiques, des perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est sûr que si la société s'exprimait clairement sur le fait qu'elle souhaite ou pas tolérer des cancérigènes dans son alimentation, dans l'air qu'on respire, dans les cosmétiques, qu'elle le fasse clairement dans les grands secteurs et qu'on pense par famille de danger, la situation serait un petit peu plus facile à gérer au niveau de la réglementation et la population serait peut-être un petit peu moins noyée dans le nom de toutes ces molécules extrêmement complexes auxquelles nous sommes exposés.
Pourvu que vous soyez entendu, Rémi Slama, c'est le meilleur que l'on puisse souhaiter. Autour de la question des liens entre santé et environnement, il y a de nombreux chercheurs qui démontrent aujourd'hui à quel point il est important de travailler sur cette notion de santé globale. Et puis, vous allez, on y reviendra, ouvrir un colloque au Collège de France sur la question du changement climatique. Il y a aussi la question de la déforestation, de la surpopulation, qui ont tous des effets sur notre santé et sur l'émergence ou la réémergence de maladies, mais aussi de pandémies ou d'épidémies. Je vous propose à ce sujet un nouvel éclairage. C'est celui de l'écologue de la santé Serge Morand, spécialiste de biologie parasitaire. Il est basé en Thaïlande, au CIRAD, pour ses recherches. Serge Morand est l'auteur de plusieurs ouvrages. On peut citer les zoonoses, ces maladies qui nous lient aux animaux, mais aussi l'homme, la faune sauvage et la peste aux éditions Fayard. Il a également été conseiller scientifique du film documentaire La fabrique des pandémies, réalisé par Marie-Monique Robin, qui sera diffusé le 22 mai prochain sur Ushuaïa TV. Serge Morand revient au micro d'Alice Roujat sur l'importance de la biodiversité pour la santé de tous.
Quand on perd de la biodiversité, notamment quand on simplifie les paysages ou quand on déforeste, généralement c'est les prédateurs et surtout les grands prédateurs qui disparaissent. On perd un service important, c'est la régulation par la prédation. Et puis, quand on simplifie des paysages, quand on simplifie les habitats, on commence à perdre les espèces qui sont des spécialistes de ces habitats. Si tout simplifie, ces espèces qui souvent sont des très bons compétiteurs et très bons régulateurs par compétition, des rongeurs qui aiment bien les humains, et bien finalement, ce sont ces rongeurs qui aiment bien les humains qui vont monter. Ils sont très proches des humains, ils sont très proches des animaux domestiques. Ce sont des très bons, ce qu'on appelle des réservoirs d'agents infectieux. La peste, les typhus murins, typhus des broussailles, pas mal d'autres virus relativement méchants par moment. Donc effectivement, ils montent en densité, ils sont plus régulés. Donc le danger qu'ils pouvaient présenter devient un vrai risque. Parce que finalement, avec leur proximité, leur abondance, ils amplifient tout ça et potentiellement des risques épidémiques apparaissent, voire même des débordements de nouveaux virus. En ce moment, on est en train de créer un monde qui devient presque parfait pour les virus. Alors ça aussi, c'est l'autre côté. C'est en perdant de la biodiversité, on perd aussi tout un ensemble de virus, de microbes qui sont sur des autres animaux. Mais il faut voir que ces virus, ces microbes, alors ils peuvent être dangereux pour nous, mais ils peuvent être aussi nous aider. On sait très bien, par exemple, que des virus de la faune sauvage participent aussi de la régulation de ces espèces propres. Et donc la perte de la diversité microbienne, voire virologique, peut en retour augmenter nos risques vers de nouvelles maladies infectieuses.
Et alors, quels sont les facteurs, les causes de cette chute de biodiversité et donc de l'augmentation des maladies ?
La déforestation et aussi souvent la simplification des habitats traditionnellement gérés avec multifonctionnels. Pour de la monoculture, généralement, ce n'est pas bon du tout. Donc on voit bien, et là on a des bonnes études qui démontrent bien que les plantations commerciales, le palmier à huile notamment, favorise souvent les maladies vectorielles, celles dont les agents sont transmises par des moustiques. Voire même, on a eu des nouvelles émergences, comme des nouvelles malarias, notamment en Asie du Sud-Est. Finalement, cette simplification, cette anthropisation des milieux, s'accompagne du succès de ces espèces anthropiques aussi, comme le moustique, ces moustiques vecteurs de malaria ou de dengue. Maintenant, depuis 2007, plus de la moitié de la population humaine vit pour la première fois dans le milieu urbain et surtout dans la zone intertropicale, riche en biodiversité. Mais là où finalement on va à la fois déforester, faire des plantations, de l'agriculture intensive et avoir des villes importantes qui vont augmenter, donc qui vont aussi liées par le commerce. Je pense que l'écologie de la santé va avoir encore un peu de travail pour les années qui vont venir.
Ça promet. Est-ce que vous partagez le constat de l'écologue de la santé Serge Morand au micro d'Alice Roujat, Rémi Slama ?
Alors, c'est pas mon domaine, donc je respecte et écoute avec grand intérêt tous ces éléments, mais ça évoque plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est qu'effectivement, en modifiant l'environnement, on va altérer la circulation des virus. Et avec des impacts sur la santé humaine. On peut avoir des impacts directs sur la santé humaine du fait de ces molécules qui altèrent notre environnement et modifient la biodiversité. On peut aussi rappeler, et c'est en lien avec ce concept d'une santé, que beaucoup de ces substances ont aussi une influence sur la faune que certaines espèces sont vues comme des espèces sentinelles qui ont permis d'identifier des effets dangereux bien avant qu'on puisse les quantifier chez l'humain. Par exemple, le DDT et ses effets sur des espèces d'oiseaux des grands lacs, dont la taille des populations diminuait, en lien avec des perturbations de la fonction de reproduction, une altération de l'épaisseur des coquilles d'aiguilles, des coquilles d'œufs qui se brisaient et donc la taille des portées était diminuée. Des alligators en Floride, dans des régions contaminées par les organochlorés, avaient des problèmes de fertilité. Donc on a cette sensibilité de l'ensemble des espèces, dont l'espèce humaine à ces contaminants environnementaux.
Tout est lié en fait. Enfin, je veux dire, tout est lié et nous sommes tous interdépendants et nous subissons tous tout le vivant.
Tout est lié. Et bien sûr, il y a cette interdépendance avec tous les besoins écosystémiques, les services écosystémiques fournis par ces espèces au quotidien pour se nourrir et demain pour peut-être développer de nouvelles molécules. Et puis, le point sur la simplification des milieux évoque aussi quelque chose d'important qu'on appelle l'hypothèse hygiénique. Cette simplification des milieux, elle s'observe aussi chez l'humain et dans nos pays, les jeunes enfants vont être exposés à moins de virus qu'ils ne l'étaient par le passé, en passant leur temps dans la cour d'une ferme où il y avait de nombreuses espèces infectieuses. Et il est possible que cette diminution de l'exposition à des infections dans la petite enfance augmente le risque de pathologies en lien avec le système immunitaire plus tardivement.
Donc, ce qui veut dire que ça implique, on va y revenir en dernière partie, mais ça implique aussi une réflexion sur la médecine en général, la santé, comment se protéger, mais pas trop. Enfin, ça implique de revoir quand même notre fonctionnement par rapport à la santé ou maladies.
Il est évident que le système de santé doit être vu comme un système à modifié potentiellement. Il capte 210 milliards d'euros chaque année. C'est une grande proportion de notre produit intérieur brut. Et
En France,
oui. Et donc, les choix qu'on fait vont avoir des conséquences. À l'heure actuelle, probablement 90 à 95% du budget va vers la thérapie. C'est important et on sait guérir des maladies qui étaient absolument, qui étaient mortelles jusqu'à récemment, des cancers, et de nombreux troubles, c'est spectaculaire, mais on peut se demander si c'est quelques 5 à 7% qu'on dédie à la prévention, en tout cas pour la partie qui est visible dans les comptes de la santé, ne sont pas un petit peu faibles, parce que pour beaucoup de pathologies, pour certains cancers comme celui du poumon, les traitements, en gros, permettent de gagner quelques mois, quelques années d'espérance de vie, mais c'est la prévention qui va nous permettre d'éviter que les pathologies surviennent et de gagner potentiellement plus d'espérance de vie avec un coût de ces mesures de prévention pour un impact bénéfique donné qui va être des fois plus faible que celui de la thérapie.
On reviendra à cette question de prévention, d'autant plus importante quand on fait une science comme vous qui nous montre l'invisible, les polluants, c'est ce qu'on ne voit pas. Autour de la question quel lien entre santé et environnement, biodiversité, polluants et santé globale, on continue de s'interroger ici comme ailleurs, cette fois-ci en créole réunionnais, avec l'Indigo sur RFI, comme un affé.
Don't let
Comme on a fait pour polluer la Réunion, un paradis, l'indigo sur RFI, autour de la question de l'influence de l'environnement sur notre santé et sur nos maladies. Cher professeur Rémi Slama, vous êtes épidémiologiste environnemental et professeur invité cette année au Collège de France sur la chaire en santé publique. Au Collège de France, vous allez d'ailleurs organiser un colloque les 16 et 17 juin prochains, interdisciplinaire, autour de ces questions de changement climatique, de biodiversité, de santé humaine, de société, de menaces, d'opportunités. Parce que vous y voyez, ces questions de santé humaine, de causes extérieures des maladies, une opportunité. Finalement, le changement climatique pourrait être une opportunité pour nous pour y aller.
En tout cas, il a deux facettes. Effectivement, ce symposium, c'est sur le changement climatique et ses conséquences, notamment sanitaires. C'est de ça dont on va discuter. Le changement climatique, c'est une menace très claire pour la santé, parce que quand on a davantage d'événements climatiques extrêmes, davantage de températures extrêmes, de variabilité, de phénomènes imprévisibles, dans la mesure où beaucoup de ces paramètres sont liés à notre santé, on peut s'attendre à... Il y a un impact sanitaire. Ce changement climatique, il peut modifier la zone de vie de nombreux vecteurs de maladies, des insectes, des allergènes. Donc il y a toute cette composante menace sanitaire du changement climatique. Maintenant, aujourd'hui, à une époque où les sociétés ont pris conscience de cette menace, de l'importance de s'adapter, mais de lutter contre ce changement climatique, de décarboner notre société, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, eh bien, ça veut dire qu'on va modifier de nombreux secteurs de notre vie de tous les jours, les secteurs les plus émetteurs. Et quand on les considère, c'est l'agriculture, c'est les transports, c'est l'industrie, c'est la production d'énergie. Tous ces secteurs sont très fortement liés à la santé. L'agriculture via ce que je mange, les transports par les émissions de polluants atmosphériques et via ma sédentarité aussi, mon activité physique, parce que si je me déplace en voiture, à pied, en vélo, mon activité physique, qui est un des principaux déterminants de ma santé, n'est pas la même. La production d'énergie via notamment ces particules fines. Donc, en même temps qu'une menace, le changement climatique, si on fait les bons choix dans les trajectoires et les modalités pour décarboner les grands secteurs de notre société, eh bien, c'est aussi une fantastique opportunité pour s'attaquer à cette problématique des particules fines qui tuent 7 millions de personnes chaque année, à cette problématique des déséquilibres alimentaires. Et là, heureusement, il y a des raisons d'être optimiste, parce que les aliments les moins émetteurs de gaz à effet de serre dans leur production sont plutôt des légumes, des fruits, qui sont aussi ceux qui sont les plus bénéfiques du point de vue de la santé.
On pourrait en profiter, mais il faut vraiment prendre tout ça en compte en même temps à la base, et aussi prendre aussi en compte les nouvelles entre guillemets menaces ou les nouveaux polluants par des ondes électromagnétiques, enfin tout ce qu'on va mettre sur le marché. Il faut maintenant concevoir dès le départ avec des chercheurs, j'imagine, la portée de ce qu'on fait.
Tout à fait. Et dans le cadre du changement climatique, où l'accord de Paris et les lois prises au niveau national récemment, au niveau européen, nous incitent à viser la neutralité carbone dans quelques décennies, c'est demain en fait, il est crucial que la science soit consultée, que les citoyens soient consultés dans leur ensemble pour indiquer ce qui est le plus important pour eux, et que parmi les différentes options vers une nouvelle société où on consommerait moins de gaz et on émettrait moins de gaz à effet de serre, eh bien, les choix soient faits de manière à aussi optimiser la santé et en profiter pour réduire les inégalités sociales. C'est possible, mais ça nécessite d'avoir tout ce travail d'anticipation, d'étude d'impact, pour quantifier les trajectoires qui seraient les plus bénéfiques, non seulement du point de vue des gaz à effet de serre, mais aussi de la santé et des inégalités.
Merci Rémi Slama. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Du coup, merci d'avoir partagé toutes ces pistes. Je ne peux que renvoyer sur vos cours, bien sûr, votre leçon inaugurale. Tout cela est disponible, je le rappelle, en accès libre et gratuit sur le site du Collège de France. Le lien est sur notre page. Et puis, je renvoie également sur vos deux ouvrages aux éditions Quae, Les perturbateurs endocriniens et Le mal du dehors, l'influence de l'environnement sur la santé. À bientôt Rémi Slama, parce qu'on compte sur vous, donc on a besoin de vous.
Merci Madame Lachowski.
autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditrices et auditeurs, pour de nouvelles interrogations anthropologiques cette fois sur la fabrique de notre humanité avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.